Audiolib présente Les grandes familles. Tome 1 de Maurice Druon. Lu par Christophe Brault. Un livre audio enregistré avec le soutien du Centre National du Livre. À la marquise de Brissac, princesse d'Arenberg. Prologue. Les murs de la chambre de clinique, le bois des meubles, le métal du lit étaient peints d'un blanc brillant, lavable et cru. De la tulipe de verre dépolie fixée au-dessus du chevet, la lumière électrique, également blanche et dure, tombait sur les draps, sur la couchée pâle qui clignait des paupières, sur le berceau, sur les 6 visiteurs. Toutes vos belles raisons ne changeront rien à mon idée, ni même le fait que ce soit la guerre, dit le marquis de la Monnerie. Je désapprouve absolument cette nouvelle mode d'aller mettre bas hors de chez soi. Il avait 74 ans et était l'oncle de la couchée. Chauve aux 2/3, il conservait sur l'arrière de la tête une couronne de cheveux blancs dressée en brosse raide comme une crête d'ara. Nos mères faisaient-elles tant d'embarras, continua-t-il. Elles n'avaient pas besoin de 50 diables de chirurgiens et d'autant d'infirmières et de tous ces ingrédients qui empestent pour produire des enfants vigoureux. Elles laissaient faire la nature et au bout de 2 jours, elles avaient les joues roses. Tandis que regardez-moi cette mine de paille mâchée. La manchette tendue vers l'oreiller, il prenait la famille à témoin. Il eut à ce moment une quinte de toux. Le sang lui afflua au visage à travers les ravines et les bouffissures et lui colora la peau d'écarlate jusqu'au crâne. Puis il cracha fortement dans son mouchoir, se nettoya la moustache. Assise à la droite du lit, Madame Jean de la Monnerie, l'épouse du grand poète et la mère de la couchée, haussa ses imposantes épaules. Elle avait depuis longtemps passé la cinquantaine. Elle était vêtue de velours grenat et portait un vaste chapeau. Sans se détourner, elle répondit à son beau-frère d'une voix autoritaire « N'empêche, mon cher Urbain, que si votre femme avait été transportée à temps, vous l'auriez peut-être encore avec vous. Tout le monde en a assez parlé. » « mais non, répliqua Urbain de la Monnerie. « Vous étiez beaucoup trop jeune, Juliette. Qu'est-ce que vous pouvez en savoir ?» À l'hôpital, à la clinique, où vous voudrez, cette malheureuse Mathilde serait morte de même façon, et sans seulement la satisfaction de s'en aller dans son propre lit, plutôt que dans le lit de tout le monde. La vérité, c'est qu'on ne fonde pas un foyer chrétien avec une femme qui a les hanches étroites à passer par un rond de serviette.
Croyez-vous que ce soit bien une conversation à tenir devant cet enfant ? Dit la baronne Schudler. Petite femme aux cheveux gris et au teint encore frais qui se tenait de l'autre côté du lit. La couchée, déplaçant légèrement la tête, lui sourit.
« Ça ne fait rien, ma mère, ça ne fait rien »,
murmura-t-elle. Entre la baronne Schudler et sa belle-fille existait la complicité des êtres de petite taille.
« Moi, je vous trouve très bien, ma chère Jacqueline », reprit la baronne Schudler. « 2 enfants à 18 mois d'intervalle, on a beau dire, c'est tout de même quelque chose. Et vous avez supporté cela parfaitement, et votre poupon est superbe. »
Le marquis de la Monnerie, bougonnant, se tourna vers le berceau autour duquel 3 hommes déjà se trouvaient assemblés, tous vêtus de sombre, une perle piquée dans leur cravate. Le plus jeune était le baron Noël Schudler, régent de la Banque de France, l'un des grands-pères du nouveau-né, et le mari de la petite femme aux cheveux gris et au teint frais. Noël Schudler était de stature gigantesque. Son ventre, son torse, ses joues, ses paupières, tout était lourd, empreint de sûreté de soi et du goût des combats d'argent. Il portait une barbe courte, très noire, et taillée en pointe comme celle d'un ruffian. Ce sexagénaire massif entourait d'égards son père, Siegfried Schudler, l'ancêtre, le fondateur de la banque Schudler, celui que Paris avait surnommé le baron de tous les empires, un vieillard maigre, à crâne tacheté et favorisé.